démocratie.
La démocratie en question.
Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast La démocratie en question sur Radio Camille. Nous nous trouvons en compagnie de Mathéo et Emmanuel et aujourd'hui nous accueillons parmi nous l'experte Esther.
Bonjour, merci de m'avoir invitée.
Suite à plusieurs projets et rencontres, comme par exemple celle d'Olivier Bouba-Olga et de Sacha Houlier, en rapport avec le projet d'AGGSP, la démocratie en question, nous avons effectué avec la classe d'AGGSP une sortie à Paris durant laquelle nous avons visité le Sénat.
Merci Marie et tout. Le saviez-vous, à l'époque royaliste, les ancêtres des sénateurs étaient les pairs de France. Le régime des pairs de France était une institution noble en vigueur de la monarchie française. Principalement les Capétiens formés avec Louis-Auguste et a été ensuite mis sous forme sous Saint-Louis. À l'origine, les pairs de France étaient 12. Les Valois et les Bourbons mettaient aussi en place ce régime. Il s'agissait d'une distinction honorifique et politique accordée à certains grands seigneurs du royaume. Tout d'abord, Esther, quelle est la relation entre le gouvernement et le Sénat, et avec l'Assemblée nationale?
Le Sénat et l'Assemblée nationale travaillent ensemble, ils forment le Parlement. Ils doivent tous les deux voter les lois proposées par l'Assemblée nationale, le Sénat ou le gouvernement. Et si les deux assemblées ne sont pas d'accord, la navette parlementaire entre les deux, le Sénat et l'Assemblée nationale, continue. Mais à la fin, les derniers à donner leur avis sur une loi, c'est l'Assemblée nationale. Car ils sont les représentants directs des citoyens, contrairement aux sénateurs, qui sont élus par les grands électeurs au suffrage universel indirect. Le Sénat doit surveiller le gouvernement, mais c'est aussi le rôle de l'Assemblée nationale. Le Parlement veille à la bonne séparation des pouvoirs et vérifie aussi s'il respecte la Constitution.
D'accord, mais à quoi servent les commissions?
Alors, il y a 7 commissions au Sénat. La commission des affaires économiques, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, la commission des affaires sociales, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, la commission de la culture, de l'éducation, la commission du sport, la commission des finances, la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Et aussi, il y a une commission qui n'est pas fixe. Une commission est un endroit où les sénateurs qui sont qualifiés sur un sujet discutent avec d'autres sénateurs pour créer une proposition de loi. Il faut rappeler que tous les sénateurs participent à une commission. Elle va être votée par l'ensemble des sénateurs dans l'hémicycle. Finalement, les commissions représentent 90% du travail d'un sénateur. C'est aussi pour cela que les sénateurs sont pas très attentifs dans l'hémicycle, puisqu'ils savent déjà s'ils vont voter pour ou contre.
Et donc, quel est le rôle du président du Sénat?
Le président du Sénat est élu par l'ensemble des sénateurs, tous les 3 ans, après chaque renouvellement partiel de l'Assemblée. Il joue un rôle fondamental dans la vie de cette institution. Il assure l'organisation et la direction des débats, veille à la sécurité et à son bon fonctionnement, mais il est également chargé de le représenter auprès de tous les organismes officiels. Actuellement, c'est Gérard Larcher qui occupe cette fonction. Lorsqu'il est absent, il est remplacé par l'un des 8 vice-présidents. Peut-être qu'un jour, le président du Sénat sera une femme, mais il faudrait d'abord que l'hémicycle représente mieux la population française. Aujourd'hui, que 36,2% des sénateurs sont des femmes, et l'âge moyen est de 59 ans et 11 mois, alors qu'en France, les femmes représentent 51% de la population et l'âge moyen des citoyens français est de 42 ans. C'est pour cela que l'on considère les sénateurs comme de vieux sages. C'est donc de là que vient l'expression « aller son train de sénateur » qui signifie qu'une personne est très lente pour exécuter une action.
Aujourd'hui, je vais vous parler de l'une des pièces les plus emblématiques du palais de Luxembourg, la salle des conférences. Une salle, 3 époques, 3 ambiances. Vous l'ignorez peut-être, mais cette majestueuse salle de 57 mètres de long a connu bien des transformations au fil du temps. Première étape, le Second Empire. Nous sommes en 1852. Louis-Napoléon Bonaparte, devenu empereur sous le nom de Napoléon III, décide de réaménager le premier étage du palais du Luxembourg. Il confie la tâche à l'architecte Alphonse de Gisors qui crée la galerie du trône, un lieu solennel pour le Sénat impérial. Avant cela, cette salle abritait les séances du Sénat. Deuxième transformation, la Troisième République. Excite les symboles impériaux, les aigles disparaissent, mais le décor somptueux reste préservé. Désormais, cet espace devient un lieu de passage essentiel. C'est ici que se croisent sénateurs et ministres tout près de l'hémicycle, à l'image de la salle des pas perdus de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, avec ses dimensions impressionnantes, 57 mètres de long, 11 mètres de large et 11 mètres de hauteur, et ses décorations majestueuses, la salle de des conférences demeure un lieu clé du Sénat, passage obligé pour les visiteurs. Elle incarne l'histoire et le prestige de cette institution.
Merci à toutes et à tous pour toutes ces belles informations. Et merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés et à bientôt.
Démocratie.
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 La démocratie en question.